Claude Mangin, vous êtes l'épouse de Naama Masfari, prisonnier sahraoui au Maroc, prisonnier politique. Un procès qui est exemplaire aujourd'hui puisqu'il fait figure un peu de cas particulier au droit de l'homme et souvent cité dans les affaires de droit de l'homme aujourd'hui. Pourquoi ?
Eh bien, donc c'est un cas de justice arbitraire caractérisé de la part du Maroc vis-à-vis donc de prisonniers politiques sahraouis qui ont été condamnés en première instance par un tribunal militaire illégal en 2013 après 3 ans d'emprisonnement suite à l'affaire de Gdeimizik, c'est-à-dire le campement en prélude du printemps arabe, où 20 000 Sahraouis se sont retrouvés pendant un mois dans le désert à 10 km de la capitale du Sahara occidental occupée, El Aaiun, comme campement de protestation pour la liberté et la dignité. Et à l'issue d'un mois, malgré un comité de liaison et de négociation avec le ministère de l'Intérieur, l'armée a attaqué à l'aube de manière violente ces civils réunis en famille, et il y aurait eu 11 victimes du côté des forces de l'ordre. En fait, aucune enquête n'a jamais eu lieu et on ne sait pas combien il y a eu de victimes, ni d'un côté ni de l'autre. Et ils ont arrêté, au fur et à mesure du temps, 25 prisonniers qu'ils ont envoyés à Rabat, dont mon mari, et qui ont été d'abord plus de 2 ans dans une prison pour terroristes, et après dans une prison en droit commun, avant d'être jugés et condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité. Et mon mari, 30 ans.
Alors par un tribunal militaire.
Par un tribunal militaire, alors que ce sont des civils. Et donc, un tribunal militaire n'a pas d'appel. Donc nous avons porté l'affaire en cassation, ils ont mis 3 ans avant de le juger et la cassation a été déclarée le 27 juillet 2016. Et dans le dossier, les juges marocains de la Cour de cassation eux-mêmes ont écrit qu'il n'y a pas de lien entre les causes et les faits, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de nom de victime et il n'y a pas eu d'autopsie. Les juges marocains eux-mêmes ont écrit ça. On a le texte en français qui a été traduit officiellement. Et parallèlement à ça, moi j'avais déposé en 2014 une plainte pour torture auprès de la Cour contre la torture à Genève, qui a mis beaucoup de temps avant de répondre à cette plainte, parce qu'il y a eu pas mal d'allers-retours avec le gouvernement marocain.
Donc qui, à l'ONU, hein.
À l'ONU, et qui étaient des réponses dilatoires. Ils ne répondaient pas sur le fond jamais. Ils ne répondaient pas sur le fond de la torture. Ils répondaient toujours que c'était des politiques, etc. Alors, ce qui prouve bien que le procès était politique, puisqu'il se place sur ce plan-là, alors que l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, avait fait un vrai dossier documenté sur les tortures qu'avait subies mon mari, après son arrestation. Et finalement, le comité contre la torture a condamné le Maroc le 7 décembre 2016, au grand dam, évidemment, du Maroc. Et entre-temps, ils ont décidé de les passer devant un tribunal civil en appel à Rabat le 26 décembre. Donc, nous avons des avocats français, le cabinet Ancil, Joseph Bréham, Ingrid Metton, à laquelle s'est rajouté Olfa Ouled, qui ont eu l'autorisation d'aller plaider parce que le Maroc veut montrer qu'ils sont bien et qu'ils vont faire un procès en toute transparence, avec toutes les apparences de la transparence. Et donc, ils ont été autorisés à plaider. Et le procès n'a duré qu'une journée, le 26 décembre. Et toute la journée, ça a été d'empêcher Maître Bréham de parler de cette condamnation pour torture du Maroc par le CAT. Ils veulent pas de cette condamnation parce qu'elle n'est pas traduite en arabe, alors que c'est un document officiel de l'ONU. Et que personne au Maroc ne peut le traduire, parce qu'il faudrait qu'il soit traduit par quelqu'un du barreau de Rabat en arabe, et aucun Marocain ne peut prendre le risque de traduire un tel document qui brûle les doigts. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on demande une traduction à l'ONU elle-même. Donc ça, c'était le 26 décembre. Il a été renvoyé au 23 janvier. Donc il y a eu 3 jours d'audience, le 23, le 24, le 25. Et là, nous avions décidé de plaider l'incompétence du tribunal, selon les conventions de Genève que le Maroc et le Polisario ont signées. Incompétence selon le droit international humanitaire, puisque le Sahara occidental est un territoire occupé et que dans ce cas-là, les accusés devraient être jugés sur le lieu des faits, à El Aaiun, et non pas sur le territoire de la puissance occupante. Donc pareil, ça a été un grand scandale quand l'avocate a réussi à placer une phrase en arabe, parce qu'il fallait le dire en arabe, tollé, voilà, ça a été renvoyé au 13 mars. Et donc maintenant, tout notre travail, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire le 13 mars pour dénoncer toutes les irrégularités du procès, le rôle d'impartialité que joue le président du tribunal, le juge, et voir est-ce qu'on continue sur le droit international humanitaire ou est-ce qu'on va au fond, c'est-à-dire dénoncer la torture qu'ont subi les 21 prisonniers qui sont jugés. Voilà, donc c'est très intéressant et les prisonniers sont très contents de la façon dont les choses se tournent parce que finalement, c'est pas le Maroc qui les juge, mais c'est bien eux qui jugent le Maroc.
Alors, nous sommes le 15 février aujourd'hui, nous enregistrons cette interview. Comment va votre mari?
Il va bien, il est même en pleine forme parce que ils sont enfin...
Ils, parce qu'ils sont plusieurs.
Oui, ils sont 21, ils sont enfin acteurs après avoir subi maintenant 6 ans et demi d'emprisonnement alors qu'ils devraient être libres puisque la cassation s'est prononcée, donc ils devraient être libres et ils devraient être rejugés, même pas en appel mais en première instance, recommencer toute la procédure à zéro et avec des preuves puisque les seules preuves qu'ils ont, elles ont été extorquées sur la torture, donc elles ne valent de rien. Donc ils sont très contents d'avoir la parole et de pouvoir plaider et ils considèrent que c'est vraiment un procès historique et que enfin on peut dire les choses au Maroc. Et c'est vrai que ils ont créé un groupe d'avocats des familles de victimes qui n'existait pas en 2013. Et quand nos avocats s'approchent des confrères pour leur demander le nom des victimes qu'ils défendent, ils ne répondent rien.
Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu votre mari?
Donc je ne l'ai pas vu depuis le mois de juillet. Alors que depuis 6 ans, j'y vais tous les 3 ou 4 mois. Moi, je suis enseignante, donc j'y vais pendant les vacances. Et quand je me suis présentée en octobre dernier, comme d'habitude, pour la première fois, donc j'ai été refoulée. On m'a interdite de sortir de l'aéroport et on m'a remis à l'avion le lendemain matin, puisque j'arrivais en fin de journée. Et depuis, eh bien, je ne sais pas si j'ai le droit d'y retourner, puisque quand mes avocats écrivent à l'ambassade, on ne répond pas. Donc j'y vais demain, on va voir ce qui va se passer. Et donc ça a été dénoncé la semaine dernière au tribunal. Les avocats sahraouis ont dit « mais comment se fait-il que Madame Mangin ne puisse pas rentrer ?» Donc à ce moment-là, on répond que le juge a répondu que un État est souverain et il accueille qui il veut sur son territoire. Et quand ils ont répondu « oui, mais bon, depuis 6 ans, elle a toujours pu rentrer, pourquoi elle ne le peut plus ?» il n'a pas répondu.
Alors en septembre 2016, vous avez sorti un film que vous avez commencé depuis 3 ans maintenant sur la situation justement de votre époux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'on a des amis militants, des photographes qui se sont trouvés avec des Mizik en octobre 2010 et qui ont fait la visite du camp encerclé par l'armée avec mon mari qui l'a expliqué les enjeux de ce camp. Et quand après le camp a été démantelé, que mon mari a été mis en prison et torturé, ils ont voulu faire quelque chose. Donc ils ont contacté des amis qui avaient une petite boîte de production, la BKE et Y-Graine d'Image. Ils ont trouvé une jeune réalisatrice qui n'avait jamais fait de film et ils se sont lancés dans ce film. Alors c'était pas très facile parce que la personne est en prison, donc on peut pas avoir d'image de lui. Donc ils ont pris le parti pris de faire des dessins à partir de photos. Et à partir de tous les dialogues que j'ai recueillis pendant toutes mes visites, puisque à partir de 2013, j'ai eu l'idée d'amener des post-it avec moi, que les gardiens m'ont laissé sortir, et donc je prenais en note tout ce que Nama me disait sur sa situation, sur ses idées politiques, etc. Donc on est parti de ce matériau-là, et puis elle m'a accompagnée dans plusieurs de mes missions, dans les territoires occupés, à Rabat avec 5 conseillers municipaux de notre ville d'Ivry-sur-Seine où on habite, et ensuite, elle m'a accompagnée pendant une mission en avril, il y a 1 an, où elle a été expulsée. Donc, elle n'a pas pu y retourner.
Rappelez-moi le titre du film.
Alors, « Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui ». En fait, c'est un film qui me suit dans mes pérégrinations. Donc, pour aller le voir, on me voit aussi à Genève, on me voit à l'ONU, on voit la responsable de l'ACAT avec qui la plainte a été déposée. Et puis aussi toutes les démarches que je fais à droite et à gauche pour alerter sur ce cas d'injustice et sur le Maroc et sur le Sahara occidental.
La situation étant ce qu'elle est maintenant, que peut-il advenir?
Normalement, il devrait être libéré. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est leur libération. Mais comme dit mon mari, moi je suis prêt à passer 30 ans, c'est-à-dire que ma libération n'aurait aucun sens si mon peuple n'a pas l'indépendance. Donc mon combat, c'est l'indépendance du Sahara occidental, et puis évidemment la liberté de mon mari et de ses compagnons. Et comme on dit toujours, si un jour le Sahara occidental est libre, ça libérera aussi le Maroc. Parce que le Maroc est empêtré dans cette histoire, qui lui coûte cher, qui bloque tout, et qui empêche le développement du Maroc. Et en fait, le problème du Maroc, c'est qu'il peut pas s'en sortir, parce que s'il lâche le Sahara occidental, c'est le pays qui implose, puisque depuis 40 ans, c'est autour de la question sahraoui que les rois successifs unissent leur peuple. Donc c'est un vrai problème existentiel pour le Maroc.
Est-ce qu'il y a des signes d'évolution, de changement dans la société marocaine? Et puis comment la société marocaine elle-même comprend et voit cette situation?
Vous allez le voir dans le film, c'est-à-dire que le peuple marocain est complètement dans la propagande depuis 40 ans, comme on peut l'être quand on est un pays qui colonise un autre pays. Et d'autre part, au Maroc, il n'y a aucune liberté de parole. Il y a trois sujets tabous au Maroc, c'est le roi, la religion et le Sahara. Et récemment, ils ont quand même sorti une loi comme quoi, si on parle du Sahara, on peut être puni pénalement. Donc ça bloque beaucoup de choses. Et puis, on parle de torture des Sahraouis, mais au Maroc, les gens qui sont arrêtés sont systématiquement torturés. Et le seul association qui se bat pour la liberté de parole, comme l'Association marocaine des droits de l'homme, est en permanence en butte à des problèmes. Et depuis 2 ou 3 ans maintenant, ils peuvent même plus organiser leur université d'été. Donc Amnesty International est interdit de séjour, Human Rights Watch est interdit de séjour. Donc c'est ça le Maroc.
Vous m'avez dit, lorsqu'on s'était rencontré au Sahara occidental il y a 2 ans maintenant,
dans les camps de réfugiés,
voilà exactement, qu'il y avait aussi un sujet un peu tabou, ce qu'il est encore, c'est qu'en fait les réfugiés de la mer aussi, ceux qui viennent, qui s'échappent un tout petit peu pour essayer de partir, sont également traités, surtout s'ils sont africains, extrêmement mal, pire encore. Souvent que les prisonniers politiques.
Oui, mon mari a découvert bien plus malheureux qu'eux dans la prison de droit commun, c'est-à-dire tous ces Africains qui ne sont en plus pas arabophones et qui n'ont aucun soutien diplomatique et qui sont entassés, bon les Marocains aussi, ils sont entassés 40 par cellule et qui n'avaient rien à manger, pas de soins, pas de douche, etc. et qui sont les oubliés de la terre. Oui.
L'actualité, c'est aussi une évolution politique qui se redéfinit. Le Maroc revient de l'Union africaine, ça a des changements politiques, ça peut avoir des incidences politiques aujourd'hui sur la situation du Sahara occidental.
Nous, on le prend positivement, et le Polisario aussi, puisque donc le Maroc, contraint et forcé, avait espéré, en rentrant en l'Union africaine, que la RASD, membre fondateur de l'Union africaine en 84, qu'ils avaient quitté en claquant la porte parce que la RASD y entrait, avait espéré qu'elle serait expulsée. Or, il n'y a pas de procédure d'expulsion dans l'Union africaine, et qu'en acceptant la procédure d'entrée dans l'Union africaine, il accepte de siéger aux côtés de la RASD. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Puis, est-ce qu'ils vont jouer le jeu, ou bien est-ce qu'ils entrent par tactique, poussés par leurs alliés occidentaux, qui commence à avoir un peu peur de l'importance que prend l'Afrique dans tout le monde économique, et donc pour faire imploser l'Union africaine. Donc ça, c'est le côté, disons, peut-être négatif. Ou bien, est-ce que le Maroc va se servir de cette entrée dans l'Union africaine pour régler ce problème des colonisations de la dernière colonie d'Afrique, qui est le Sahara occidental, qui était donc, je le rappelle, l'ancien Rio de Oro, colonie espagnole qui aurait dû être indépendante en 1975 quand l'Espagne a quitté le Sahara occidental et qui a été donc recolonisée par le Maroc avec la fameuse marche verte. Donc l'Union africaine, eh bien, tout est ouvert. Et mais ce qui me choque beaucoup, c'est que par exemple la presse française, qui a longuement parlé de ce retour du Maroc en Union africaine, n'a pas jugé bon de donner comme illustration ce qui se passe actuellement comme procès politique de la colonisation marocaine avec le cas de mon mari.
Couleur FM.
Andrei Kourkov, vous préfacez un livre de Niels Ackermann, un photographe, L'Ange Blanc, sur une ville assez extraordinaire, qui est à la fois une utopie et on peut dire aussi une déconvenue. Une ville construite à quelques 30 km de Tchernobyl. Vous y êtes allé ?
Oui, je suis allé là pendant le chantier. En fait, on m'a invité avec des intellectuels de l'Union soviétique. C'était encore 1989, peut-être. Et pour montrer une ville de l'avenir.
Une ville modèle.
Ville modèle, mais aussi une ville très spécifique parce que c'était construit pour les gens qui travailleront après la catastrophe sur la station nucléaire de Tchernobyl.
Et dans cette ville, tout le monde, les meilleurs architectes soviétiques y ont participé. On voulait effacer un peu le souvenir de Tchernobyl.
En fait, il n'y avait pas de traces des catastrophes, d'industrie, pas du tout, parce que c'est la ville construite dans les forêts. Vraiment, c'est comme dans la réserve de nature. On s'est retrouvé avec des petits... il y a bien sûr des bâtiments un peu plus grands, 5 étages, mais on nous montrait aussi des maisons, deux villas plus petites pour une famille. Et il y avait pas mal de rues comme ça qui me semblaient proches au village allemand, au village français, parce que c'était très agréable, très vert. Beaucoup de bois, beaucoup de nature, et l'infrastructure était toute moderne avec des magasins d'alimentation, des cinémas, des choses comme ça.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a construit ces habitations, cette ville, justement pour les travailleurs qui allaient travailler à Tchernobyl, qui ont été très exposés.
En fait, on a annoncé que la ville est construite dans l'espace complètement libre des radiations, parce que les radiations n'étaient pas partout. Et bien sûr, le travail était dans la station où il y avait toujours un niveau aussi haut de radiation. Mais il y avait beaucoup de gens qui pensaient déménager pour Slavoutich, pour cette ville, parce que on a pensé que c'était vraiment une possibilité de recevoir un appartement gratuit et plus grand, moderne, dans une ville moderne. C'était une possibilité de faire une carrière dans l'industrie nucléaire, c'est-à-dire on pouvait commencer le travail à Tchernobyl et après passer, je ne sais pas où, à Zaporogie ou dans les autres stations. Mais il y avait beaucoup de jeunes familles avec des enfants qui déménageaient à Slavoutich.
Alors après le changement de l'ère soviétique, on arrive à l'indépendance de l'Ukraine, mais est-ce que finalement on a tenu les promesses ?
Je ne sais pas à propos des promesses, mais je crois au début des années indépendantes dans l'Ukraine, on a encore trouvé beaucoup d'argent pour finir cette ville, pour la construction de la ville, pour garder le niveau de la vie pour les travailleurs. On a construit un petit chemin de fer entre Slavoutich et la station nucléaire pour les travailleurs parce qu'ils partaient toujours chaque matin. Il y avait quelques trains électriques comme RER qui passaient dans la forêt jusqu'à la station nucléaire et à 5h d'après-midi retour. Oui, je crois aussi qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient bien organisées pour les habitants de la ville. Parce qu'il y avait moins de problèmes avec l'alimentation pendant les années de crise. Ils pouvaient peut-être voyager un peu plus que les autres. Ils étaient privilégiés jusqu'à 1994-95. Et après, tout était pareil. Tous les gens, tous les habitants de toutes les villes devaient se retrouver en phase de crise, en phase de problèmes économiques.
Et donc finalement, ce qui était un modèle, on gagnait beaucoup plus d'argent aussi, hein, le salaire des plus élevés.
Oui, le salaire était 2-3 fois plus grand que normalement. Les gens étaient contents.
Mais les gens risquaient quand même leur vie.
Ils ne pensaient pas de ça et vraiment, chacun avait un appareil pour contrôler la radiation. C'est-à-dire, quand j'ai visité quelquefois Slavoutich ou la zone de Tchernobyl, on m'a amené aussi avec un appareil comme ça, c'est-à-dire m'a instructé que s'il y a trop de radiation, je dois revenir jusqu'à la zone moins dangereuse.
На поточку прала, на вербочку клала, Поможи ми, пане Боже, щоб собі думала, щоб собі ду, щоб собі ду, щоб собі ду, я собі думала.
Aujourd'hui, on organise en Ukraine des voyages touristiques à Tchernobyl. C'est devenu quasiment une attraction.
Oui, en fait, il y a une seule agence du tourisme nucléaire, du tourisme de Tchernobyl. Cette agence se trouve sur ma rue, Reitaska. Et je crois.
C'est à Kiev, hein.
C'est à Kiev, oui. C'est pas quelque chose de très populaire. C'est parce que, tout d'abord, c'est cher. C'est un jour de voyage, je crois, coûte entre 120-150 €. Mais c'est très intéressant parce que je crois les touristes qui viennent dans la zone, c'est plutôt les journalistes. Et pour eux, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent rencontrer les gens qui sont revenus dans ces anciennes maisons après la catastrophe. Ils étaient forcés de quitter les maisons et illégalement, après, ils se retournaient et réinstallés dans ces villages. Et je me souviens, j'ai visité encore aussi quelques familles comme ça, quelques vieilles hommes et femmes qui vivaient seuls dans un grand village abandonné. Mais l'État acceptait ça, il était pas forcé de quitter le village la deuxième fois. On a organisé pour eux les magasins mobiles, un système de poste, un système de livrance de pension, d'argent et une ligne de téléphone d'urgence spéciale.
Ah justement, ici, Tchernobyl, c'est quand même un symbole, c'est quand même quelque chose qui inquiète beaucoup les gens. Alors, qu'est-ce que c'est que Tchernobyl aujourd'hui pour les Ukrainiens? Est-ce que c'est un mauvais souvenir, un cauchemar? Au contraire, on a déjà oublié.
C'est oublié par les gens qui n'étaient pas touchés par la catastrophe. C'est pas oublié par les gens qui devaient déménager. Par exemple, j'ai une maison dans la campagne, 100 km de Kiev, et dans le village qui était retourné à vie grâce aux migrations forcées des gens de Tchernobyl. Et maintenant, il y a 50% des habitants du village sont les gens qui habitaient près de Tchernobyl, qui bien sûr se souvient que chacun revient le 26 avril, c'est ouvert, on peut revisiter ces maisons, aussi dans les villages qui sont complètement fermés à cause des radiations, mais les gens vont là pour les souvenirs, pour revisiter le passé. Mais pour les gens qui n'étaient pas touchés, c'est plutôt une histoire soviétique.
Si je comprends bien, ça fait partie de l'histoire soviétique, justement. On a un peu oublié. La jeunesse s'en souvient? La jeunesse est consciente de ce qui s'est passé?
Non. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne sont pas intéressés. Et ils connaissent que c'était une catastrophe nucléaire, c'était le temps soviétique, mais pas plus.
Andriy Kourkov, vous avez été souvent en Crimée. Aujourd'hui, la Crimée, elle a été annexée par la Russie. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette situation, hein, comme ukrainien et aussi comme auteur de langue russe?
Oui, c'est triste, en fait. C'est triste parce que je ne vois pas une possibilité pour la Russie et l'Ukraine de trouver une langue commune encore une fois. Parce que l'Ukraine était agressée par les Russes. La côté russe, Monsieur Poutine et ses copains ont transformé la région de Donbass dans le dépôt de munitions, comme Transnistrie avant la guerre avec la Moldavie. La même chose se passe avec la Crimée. La Crimée, c'est maintenant plutôt la base militaire russe.
Elle était déjà avant, hein.
Il était déjà un peu, parce qu'il y avait des bases militaires ukrainiennes et des bases militaires russes. Mais il y avait toujours des problèmes petits et le gouvernement ukrainien jamais voulait parler de ces problèmes. Mais maintenant, c'est clair parce que il y a beaucoup plus de bases militaires nouveaux construites par les Russes dans le Crimée. Et à cause de ça, je crois, c'est aussi, ça fait le problème de développer la Crimée comme la place de vacances pour les Russes. Parce qu'il y a chaque jour des entraînements d'aviation militaire, d'artillerie, des choses comme ça. Il y a des hélicoptères militaires sous les plages. Et il y a des vidéos sur YouTube comment les gens qui font les vacances essayent de fuir des plages pendant les moments comme ça. Et je crois pour la Russie revient à l'idée ancienne d'Empire russe d'utiliser la Crimée pour contrôler toute la navigation de la mer Noire. Et c'était encore une autre rêve russe de contrôler ces Bosphore et Dardanelles. Je suis très heureux que ce rêve n'ait jamais réalisé. Mais avec la Crimée, ça va rester un problème pour beaucoup des années.
Il y a justement la construction du grand pont maintenant qui permet d'accéder à la Russie. On dit que c'est en 2018 qu'il sera prêt, d'après ce que nous avons vu dans un dernier voyage. On a l'impression qu'à partir de ce moment-là, la Crimée pourrait être alimentée par la Russie. Donc, il risque d'y avoir une tension moins importante du côté du Donbass. Parce que ça se justifie moins. Est-ce qu'il y a possibilité de trouver une issue politique ?
Une issue politique, oui, comme auteur, je peux m'imaginer, visualiser quelque chose comme décision avec des aides des Nations Unies où la Crimée devient un territoire indépendant avec deux systèmes législatifs fonctionnant dans le même temps, russe et ukrainien. Mais si ça va passer, c'est-à-dire c'est possible dans 20 ans, quand M. Poutine déjà appartient à l'histoire russe et il y a des politiciens russes qui sont plus pragmatiques et qui veulent retourner la Russie au monde des règles civilisées internationales.
Aujourd'hui, comment est perçu le problème de la Crimée en Ukraine ? Parce que quand on est sur place, on se rend compte que quand même, il n'y a pas eu d'investissement depuis 1991. Les maisons sont souvent un peu délabrées, les routes ne sont pas bonnes, etc. Donc, on se poserait la question, est-ce que les autorités ukrainiennes de l'époque, post-soviétiques, n'ont aussi rien fait pour avancer les choses ?
Oui, si vous en pensez. Je suis d'accord. Il y a une grande faute aussi à côté des politiciens ukrainiens, du gouvernement ukrainien différent, parce que une chose que Kiev jamais essayé de contrôler la situation politique en Crimée, et une autre chose, par exemple, le premier président d'Ukraine, Leonid Kravchuk, invité les Tatars de Crime déportés par Staline de revenir et s'installer en Crimée encore une fois. Il était promis par le gouvernement ukrainien des aides financières, matériaux pour construction, pour construire les maisons nouveaux, parce que ces maisons sont jusqu'à aujourd'hui occupées par les familles qui étaient ramenées par la partie communiste de la Russie et de l'Ukraine. Mais quand les Tatars sont revenus, en fait, tous ces essais de réinstaller à la Crimée étaient bloqués par les politiciens, par le gouvernement de Crimée. Crimée était une république autonome ukrainienne, c'est-à-dire il avait le parlement, il avait la constitution séparée, mais la même, mais séparée. Et comme ça, les gens-là pensaient toujours qu'ils peuvent ignorer les décisions ou les directives de Kiev. Et Kiev, jamais, en fait, confronté cette situation avec des idées, des actions décisives, avec des désirs de prendre la politique de Crimée sous le contrôle.
Nous, on l'a vu par exemple avec la langue aussi, puisque même les minorités qui se trouvent en Crimée, que ce soit grec, bulgare, arménienne, allemande, etc., ont subi le même sort que la langue ukrainienne. Avant l'annexion par les Russes, les trois dernières années, il y avait un moment dans la constitution ukrainienne, ils devaient faire une reconnaissance des minorités. Et ils ne l'ont pas fait. Il y a un projet de loi qui n'a jamais passé au Parlement.
Le comité d'État des problèmes des minorités existait et travaillait toujours. La loi qui était poussée par Yanukovych pour la langue russe, mais cachée dans la formule qui est des langues de minorité, c'était la loi décorative parce que tout ça existait déjà avant et personne ne pouvait annuler les droits de minorité d'utilisation de ces langues parce que une autre chose que les Grecs n'utilisent pas, ne parlent pas le grec en Ukraine, mais les Bulgares, les Moldaves, les Gagaouzes, les Roumains, les Hongrois, ils parlent. En Hongrois, ils ont les écoles en hongrois, en roumanien, en bulgare, tout ça. Et en Crimée, la minorité plus importante était bien sûr les Tatars de Crime, qui avaient ces écoles, ces livres, ces journaux en tatar. Et c'était payé par Kiev. On fait toutes les choses comme ça. Et il y avait presque personne qui parlait ukrainien en Crimée, sauf les migrants du travail d'Ukraine d'Ouest qui s'est déménagé parfois pour travailler à Sévastopol ou à Yalta.
Vous avez écrit un livre sur Maïdan, un journal que vous avez tenu pendant ces événements. Vous qui avez vécu déjà la Révolution Orange, vous avez vécu maintenant la révolte de Maïdan. Alors, est-ce que c'était une nouvelle révolte? Est-ce que c'était un début d'une révolution? Est-ce qu'il y a une déception de la société ukrainienne après ces événements?
Les événements de 2013-2014, c'était la continuation de la Révolution Orange, mais avec des autres moyens et contrôlé par les autres gens, parce que la Révolution Orange était vraiment influencée par les intellectuels ukrainiens, très, très forte. Mais pendant les événements de 2014, les intellectuels ne jouaient pas un grand rôle. En fait, l'initiative était récupérée par les radicaux et par les petits groupes qui étaient en fait préparés pour combat physique, pour confrontation avec la police. En fait, ils ont provoqué cette confrontation parce que après la Révolution Orange, il y avait des gens, des jeunes nationalistes qui disaient que c'est pas possible de changer le système sans combat physique, sans petite guerre. Et ils étaient très, les gens étaient bien sûr très déceptionnés après la Révolution Orange. Mais après les derniers événements, en fait, il n'y a pas d'atmosphère des déception, des choses comme ça. Le pays est très différent aujourd'hui et ça reste toujours l'Ukraine typique parce que l'Ukraine typique, c'est beaucoup des opinions complètement différentes, beaucoup des gens qui pensent que c'est le monde, ils ont la vérité ou savent la vérité, mais dans le même moment, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de perte d'espoir. En fait, les événements derniers de 2014 aider de créer une société civile incroyable qui est beaucoup plus forte que le gouvernement ukrainien. Parce que la société civile, jusqu'à aujourd'hui, attaque chaque jour les décisions du gouvernement, du ministre, et essaie de contrôler tous les gens qui étaient accusés d'être corrompus ou qui font des choses pas très transparentes.
Justement, on a l'impression qu'aux dernières élections, il y a eu environ 30% de transformation dans les élus nouveaux. C'était pas assez pour changer complètement le système, mais c'est suffisant pour donner un espoir d'un vrai changement politique.
Oui, oui. Bien sûr, il y avait des personnages qui étaient les héros du Maïdan et qui sont devenus les apparatchiks typiques, mais c'est la minorité. Il y a toujours beaucoup de gens, en fait, qui sont jeunes politiciennes, mais qui ne veulent pas aller dans le Parlement, qui veulent rester les chefs des mouvements civils.
La jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'elle a été politisée par ces événements? Est-ce qu'elle a un espoir? Elle a une ambition en Ukraine?
Il y a beaucoup de groupes de jeunesse différents. La jeunesse des campagnes sont devenues beaucoup plus patriotiques, mais patriotiques et dans le même moment militants patriotiques, oui. C'est les gens qui partent pour la guerre, comme les volontaires. Beaucoup de ces gens sont morts aujourd'hui. Les jeunes des grandes villes, il y a des gens qui comprennent que maintenant, ils doivent apprendre beaucoup pour faire, pas carrière, mais pour influencer la situation dans le pays tout de suite. Et beaucoup de jeunes hommes, jeunes femmes, en fait, rejoignent maintenant les gouvernements locaux. Mais bien sûr, il y a aussi une tendance pas très grande, mais il y a aussi des gens qui quittent le pays. C'est pas beaucoup maintenant parce que c'est très facile de traverser les frontières maintenant, on peut aller, revenir, tout ça. Il y a une autre chose que mille et mille des jeunes ukrainiennes sont revenus en Ukraine, des États-Unis, d'Hollande, d'Angleterre, d'Espagne, de France, pour travailler, pour essayer de l'aider, aider le pays de devenir plus civilisé.
Est-ce qu'on peut aller facilement au Donbass? Vous êtes y allé vous-même?
Je suis allé deux fois à Donbass. Une fois, j'ai visité sept villes, petites villes et grandes villes. Et j'ai réussi d'achever la frontière avec la Russie dans la région de Lugansk, Severodonetsk. C'est encore un territoire triste et peut-être les seuls gens on peut parler normalement et les seuls gens actifs là, c'est les gens. C'est les gens qui ouvrent les espaces publics pour discussion dans les villes comme Kramatorsk, Slaviansk, Severodonetsk, qui organisent les associations avec les petits entrepreneurs des régions pour accumuler l'argent pour les projets sociaux. Mais la population plus âgée reste pas tranquille, mais sans mots, c'est impossible de parler à ces gens. Je crois que beaucoup de ces gens sont encore pro-soviétiques aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas pro-russes, ils sont pro-soviétiques, ils rêvent de la passé. Et quand j'ai essayé de parler avec ces gens à Severodonetsk, personne ne voulait me répondre, seulement les jeunes et les enfants aussi.
Donc il y a quand même une possibilité d'une sorte de réconciliation un jour?
Ah oui, réconciliation, c'est bien sûr, c'est possible, parce que en fait maintenant, ça changeait déjà. Aujourd'hui, les gens qui étaient pro-soviétiques et pro-russes, mais qui ne voulaient pas rejoindre les séparatistes, ils disent maintenant que pour eux, c'est presque pareil qui gouverne la région, la même chose est leur fin de la guerre.
Dans votre œuvre, Andrei Korkov, on y voit beaucoup d'humour, d'absurde, et aussi de la parodie. Alors, est-ce que c'est une lucidité de votre part, ou est-ce un champ de désillusion?
Non, en fait, j'ai commencé à écrire des romans, des textes drôles et bizarres dans le temps soviétique, pendant la censure, quand mes livres n'étaient pas publiés. J'ai continué jusqu'à 2012, peut-être. Le dernier roman publié, c'était... le concert posthume de Jimi Hendrix, où on trouve beaucoup de choses drôles et bizarres. Mais je dois dire que les événements de 2013-2014 m'influencent et j'ai perdu un peu d'humour, de sens d'humour. J'essaie de retrouver ça et je finis un roman qui est beaucoup plus sérieux que normalement que les autres romans. Mais j'ai essayé aussi d'implanter dans le roman un peu de choses drôles et bizarres. Ils sont peut-être plus philosophiques que bizarres. Mais de temps soviétique, l'humour était une ammunition des combats avec le système, avec la stupidité d'idéologie communiste. Maintenant, l'humour, c'est un peu quelque chose de différent. Parce que s'il y a des stupidités, c'est la stupidité aujourd'hui humaine, pas idéologisée. Et c'est beaucoup plus difficile à combattre avec la stupidité humaine.
Une question, vous êtes mieux reçu à l'étranger ou en Ukraine comme écrivain? Vous êtes plus lu à l'extérieur que chez vous?
Je suis lu peut-être plus à l'étranger qu'à Kiev, mais je suis très connu à Kiev comme un homme public, c'est-à-dire que chacun peut-être sait que je suis un écrivain, et peut-être quelqu'un peut vous donner le titre de mes romans, mais plutôt ils savent qu'est-ce que je pense sur le sujet de la guerre à Donbass, sur la Crimée, sur la langue ukrainienne, la langue russe, tout ça. Et c'est bon parce que on n'a pas le marché du livre en Ukraine. Il y a seulement 300 librairies et parmi eux, il y a peut-être moins que 20 qui repayent l'argent aux éditeurs pour le livre vendu comme ça. C'est pas maintenant le pays où on lit beaucoup, sauf on lit beaucoup quand on trouve les versions pirates des textes sur Internet. Mais c'est toujours les jeunes, c'est pas les gens plus âgés.
Comment est-ce que vous concevez la responsabilité des intellectuels aujourd'hui face aux événements, face aussi à ce qui se passe, face à la situation de votre pays? Je rappelle que vous avez été à un moment donné secrétaire général de l'Union des écrivains ukrainiens.
C'était il y a beaucoup d'années, mais le travail des écrivains aujourd'hui doit être en fait la provocation des débats, des discussions publiques sur tous les sujets importants du pays. J'ai organisé un projet où je ramène avec moi jeunes écrivains de régions ukrainiennes dans les provinces les plus profondes, les plus oubliées, pour montrer les gens qui habitent là comment on dispute des choses en public sans devenir agressive ou très militante. Et on a fait déjà 10 voyages, plutôt dans les régions sur la frontière avec la Moldavie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Pologne. Et le prochain projet comme ça, c'est en novembre et décembre dans la région de Bukovina. C'est aussi c'est près de Roumanie.
Que représente pour vous la Suisse? Parce que vous y êtes venu souvent en Suisse.
Oui.
Et votre premier éditeur était suisse, il est toujours d'ailleurs.
Oui, oui, c'est toujours Diogenes à Zurich. Mais Suisse, c'est le symbole de stabilité pour moi. C'est stabilité mentale aussi, c'est très important. C'est pas seulement la stabilité financière, parce que pour moi, c'est pas très important ici, parce que je ne touche pas la stabilité financière suisse. Mais la stabilité mentale montre que les gens sont très relax, amicaux. Et ici, aussi pendant des référendums politiques, il n'y a pas de passion militante agressive. L'agressivité est absente dans ce pays. Et c'est très rare pour un pays avec quelques langues, avec quelques groupes ethniques qui cohabitent ensemble.
Le sujet de votre prochain livre, alors qui va sortir?
C'est un roman sur migration européenne. C'est pas sur les réfugiés. En fait, c'est un roman sur Lituanie et les Lituaniens. 30% des jeunes lituaniens quittaient le pays pour s'installer à Londres, en Angleterre, en France, en Suisse. Et c'est une histoire des trois couples qui pensaient partir ensemble, mais dans les pays différents. Et deux couples partis, un pour Grande-Bretagne, un pour la France. Et, la troisième devait rester en Lituanie. Et c'est un drame social. Mais il y a beaucoup de choses drôles, mais peut-être pas très humoristiques.
Pourquoi la Lituanie?
J'aime ce pays, petit pays, et j'ai voyagé là 12 ans pour rechercher pour ce roman. C'est les gens avec une mentalité différente, pas slave, pas vraiment français ou suisse ou allemand. C'est un pays avec une grande histoire parce que c'était le plus grand pays d'Europe.
Avec la Pologne.
Avec la Pologne dans le 14e siècle et personne ne se souvient de ça. Il se sent parfois le peuple oublié d'Europe. Et il y a beaucoup d'autres choses qui me fascinaient sur Lituanie et Lituanien.